L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres. La tension est vive dans le camp des réfugiés congolais de Busuma au Burundi. Des échauffourées ont eu lieu mercredi entre réfugiés et services de sécurité du Burundi, conduisant la mort d'un enfant de 8 ans. La nouvelle société civile congolaise, coordination du Sud Kivu, plaide pour l'ouverture d'une enquête et le rapatriement de ces réfugiés. Il n'existe aucun cas positif d'Ebola au Sud Kivu à ce jour. Par contre, des prélèvements ont été effectués sur des personnes suspectes et les services de santé attendent les résultats du laboratoire pour confirmer ou écarter l'hypothèse d'une nouvelle contamination. Cette précision est de la Division provinciale de la santé. Et la gratuité des soins est décrétée pendant 2 mois dans les aires de santé de Luiro, Kaungu et Buandaanda en zone de santé de Mitsimuresa. Les habitants des milieux concernés sont invités à se faire soigner gratuitement pendant la période de ce projet. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Au moins 16 personnes ont été tuées mercredi 22 juillet lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le village de Mandete et Ndiapanda, dans le territoire de Mambasa, à environ 165 km au sud-ouest de Bunia. De nombreux habitants ont fui la zone tandis que les activités socio-économiques sont à l'arrêt. Selon des sources locales, ce bilan demeure provisoire, les opérations de fouilles ayant été suspendues en raison de la présence des assaillants dans la zone. Les mêmes sources précisent qu'il est actuellement difficile d'accéder à la zone, les assaillants étant toujours signalés dans les environs. Cette nouvelle attaque a provoqué le déplacement de nombreux habitants vers des localités voisines, ainsi que vers la ville de Beni dans la province du Nord Kivu. Les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées dans les villages touchés à la suite de l'insécurité persistante. Les acteurs de la société civile attribuent la recrudescence de ces attaques au faible effectif des FARDC dans cette partie du territoire de Mambasa. De son côté, la force d'intervention rapide de la MONUSCO basée à Sayo, à une dizaine de kilomètres de Beni, s'est déployée mercredi soir dans la zone. Et la nouvelle société civile congolaise, coordination provinciale du Sud Kivu, exige le rapatriement des réfugiés congolais au Burundi et l'ouverture d'une enquête après la mort d'un des leurs dans une manifestation tenue mercredi 22 juillet dernier. Il s'agit d'un enfant de 8 ans décédé dans des échauffourées qui ont opposé les réfugiés du camp de Busuma au Burundi au service de sécurité burundais. 3 personnes ont été blessées et d'autres arrêtées, précise la nouvelle société civile congolaise. Ces réfugiés ont manifesté pour dénoncer le système de distribution de la ration et la complaisance dans la sélection des réfugiés concernés par le prochain rapatriement. Selon eux, il a été affiché une liste des personnes à rapatrier, mais les noms qui y figurent concernent des personnes qui sont déjà retournées en RDC. La nouvelle société civile congolaise fait savoir que la tension demeure perceptible au camp de Busuma, d'où l'appel au rapatriement des réfugiés congolais qui s'y retrouvent et l'indemnisation de la famille qui a perdu cet enfant. Écoutons à ce sujet Mafikiri Mashimango, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise au Sud Kivu.
Il y a eu traitement de balles, on a ouvert les faits et comme bilan, un enfant de 8 ans est décédé sur place. Il y a 3 femmes blessées dans un état critique. Il y a eu des arrestations que nous condamnons même. Et ça pose un problème parce que quand on a affiché des personnes qui seront rapatriées, on a affiché les mêmes noms des personnes qui sont déjà rapatriées au niveau d'Ouvira. C'est comme ça qu'il y a eu vraiment des bruits, des mésententes. Et cela a créé ce que ça a créé. Donc pour nous, en tant que bureau de la coordination de la nouvelle civile, on a demandé d'abord des choses, une descente sur le terrain, parce que pour le moment, je peux vous dire que les jeunes sont en débandade parce qu'ils sont recherchés. Il faut vraiment une enquête sérieuse pour s'approprier de la situation. Deuxième élément, c'est de pouvoir indemniser toutes les familles ayant perdu les leurs dans cette situation-là, mais aussi de renforcer tous les mécanismes nécessaires pour le rapatriement le plus vite possible de ces réfugiés qui sont au niveau du Nord.
Mafikiri Mashimango, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise au Sud Kivu, a été joint au téléphone. Et le Royaume-Uni a annoncé le rétablissement depuis le 21 juin des services des visas normaux pour les ressortissants de la République démocratique du Congo, saluant une avancée obtenue à l'issue d'un dialogue avec Kinshasa sur les retours des Congolais ne disposant pas d'un droit de séjour sur le territoire britannique. L'ambassade se félicite de la reprise des services de visas normaux avec la RDC depuis le 21 juin 2026, a indiqué la représentation diplomatique britannique dans un message publié jeudi. Selon l'ambassade, cette évolution résulte d'un dialogue constructif entre Londres et Kinshasa concernant le retour des ressortissants congolais en situation irrégulière au Royaume-Uni. L'ambassade ajoute que cette décision illustre le renforcement du partenariat bilatéral entre les deux pays. Pour rappel, en décembre 2025, le Royaume-Uni avait durci les conditions d'octroi des visas aux ressortissants congolais, invoquant une coopération jugée insuffisante sur les retours des personnes en séjour irrégulier. Vous suivez Radio Mendeléo, dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Mendeléo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
À présent, la suite de ce radio-journal, la vérification de l'information constitue aujourd'hui l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la désinformation et les rumeurs qui circulent sur les plateformes numériques. C'est le principal message transmis jeudi 23 juillet 2026 aux étudiants de l'Institut supérieur d'études commerciales et financières ISECOF en sigle lors d'une conférence débat organisée par Radio Mendeléo. La communication et la gestion de la rumeur au service de la paix et de la cohésion sociale a été le thème de cette conférence. Le contenu avec Myriam Moufano.
Au cours de cette rencontre, l'orateur principal Moussaba Prost a expliqué que le développement du numérique offre à chacun la possibilité de produire, de diffuser et de relayer l'information. Poursuivant son intervention, Moussaba Prost a établi une distinction entre l'information et la rumeur. Selon lui, l'information repose sur des faits vérifiés et des sources crédibles, tandis que la rumeur circule sans preuve et peut semer la confusion ou attiser les tensions. Il a à cette occasion exhorté les étudiants à faire preuve de prudence, à recouper les sources et à ne jamais publier ou partager une information avant d'en avoir vérifié la fiabilité. Au nom du participant, Wilhelmine Makoni, étudiante en bac 3 informatique de gestion à l'ISECOF, a salué les enseignements tirés de cette conférence débat. Elle s'est engagée à vérifier désormais toute information avant sa publication ou son partage, estimant que chaque citoyen peut contribuer à limiter la propagation de la désinformation.
Je m'engage à toujours vérifier les informations avant de les publier ou de les confirmer, parce que ça nous arrive toujours dans la société de recevoir des informations qui sont fausses et ça crée des problèmes. Ces fausses informations qui publient un peu partout. Comme on l'a dit là, il y a des personnes qui sont âgées, elles peuvent avoir ces informations et du coup, elles peuvent paniquer et ça peut créer des dégâts.
De son côté, le chef de section de l'ISECOF, Kibanda Mombo Jean-Claude, qui a pris part à ses assises, réaffirme son engagement à plaider en faveur de la poursuite des actions d'éducation aux médias et à l'information au sein de l'établissement. Il indique qu'avec ses enseignements reçus, désormais les étudiants distingueront les vraies des fausses informations. Kibanda Mombo Jean-Claude en parle.
Les étudiants ont été mieux outillés parce que il y a une manière que les étudiants ont apprise qui vont leur permettre à vérifier la validité de chaque information avec les différentes questions qu'ils doivent se poser avant ou après avoir eu une information ou avant de diffuser l'information. Nous avons constaté que les étudiants seront capables de donner de bonnes informations vérifiables et ils ne seront plus facilement dupés par les informations.
Précisons que cette conférence débat se tenait dans la grande salle de l'ISECOF sur avenue Patrice Emery Lumumba en face de la mairie de Bukavu.
Parlons santé à présent. Aucun cas actif de la maladie à virus Ebola n'est actuellement enregistré dans la province du Sud Kivu, mais des prélèvements des cas suspects ont été effectués et les échantillons ont été envoyés au laboratoire pour analyse. Cette précision est du docteur Claude Baiziré, chargé des communications de la division provinciale de la santé d'EPES Sud Kivu, après la diffusion sur les réseaux sociaux des informations faisant état des 3 cas suspects d'Ebola signalés dans la ville de Bukavu et ses environs. À l'en croire, les services des attendent les résultats du laboratoire qui permettront de confirmer ou d'écarter la présence du virus dans la province. Le docteur Claude Baïziré appelle la population à rester vigilante tout en évitant la propagation des rumeurs. Il rassure que les autorités sanitaires communiqueront officiellement toute évolution de la situation et prendront les dispositions nécessaires en cas de confirmation d'un cas actif. En attendant, la division provinciale de la santé encourage la population à continuer à respecter les mesures de prévention et à consulter rapidement les structures sanitaires en cas de signes suspects. Le docteur Claude Baïziré en parle.
À ce jour, nous avons déjà eu plus de 250 cas suspects de maladies virus Ebola. Et chaque fois, comme vous le savez, si on est suspect, l'on fait le prélèvement du malade et les échantillons sont envoyés au laboratoire. Aujourd'hui, nous avons un laboratoire ici dans la province et on fait des examens. Les résultats nous reviennent et jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tous les résultats sont négatifs. Et nous continuons à travailler. Parce que l'essentiel pour le cas d'Ebola, c'est quoi? Lorsqu'il y a un malade, qu'il soit suspect, qu'il soit malade, nous demandons à la communauté d'aller directement à l'hôpital ou au centre de santé. Pour toute maladie, il faut aller à l'hôpital ou au centre de santé. C'est là où l'infirmier ou le médecin peut se dire, sur base de l'histoire du malade, ou bien sur base de certains signes, peuvent se dire est-ce que ça ne peut pas être Ebola. Et à ce moment-là, la personne est considérée comme suspect Ebola. On fait les examens et on a le résultat.
Vous venez de suivre le docteur Claude Baïziré, qui est chargé des communications à la division provinciale de la santé. Et la zone de santé de Minova, située en territoire de Calais, fait face à une flambée des cas de choléra. C'est ce que rapportent plusieurs acteurs sociaux et responsables des cellules d'animation communautaire de la zone CAC en sigle. Les précisions avec Omer Amoudekereza.
Sans donner des chiffres pour étayer cette alerte, nos sources font savoir que les cas sont recensés dans plusieurs aires de santé dont Minova, Budondo, Mutshibu et Bulenga. La difficulté d'accéder à l'eau potable serait à la base de l'augmentation des cas, rapporte ces sources. Elle fait savoir que l'eau est devenue une denrée rare dans la zone de santé de Minova, car les bornes et fontaines publiques ne font plus couler l'eau depuis plusieurs semaines. Seule l'association Asili reste opérationnelle dans la zone, en vendant un bidon d'eau à 500 francs congolais dans certains avenues, alors que d'autres demeurent non approvisionnées. Les acteurs sociaux de Minova appellent les partenaires humanitaires opérant dans la zone à recourir au forage pour apporter tant soit peu une solution au problème de la desserte d'eau potable dans cette partie du territoire de Calais. Ces derniers saluent l'activisme de la Croix-Rouge dans la zone qui intervient dans la prévention, les investigations et les traitements des cas de choléra. Cependant, les besoins restent énormes, notamment sur les volets de la motivation des prestataires volontaires dits secouristes. L'appui en matériel, la chloration d'eau et la désinfection des ménages touchés, concluent ces acteurs. Radio Maïndélé a essayé de joindre les médecins chefs des zones de santé de Minova pour plus d'éclairage autour de la question. Mais malgré les nombreux essais, la suite s'est avérée non concluante.
Plusieurs habitants du territoire de Calais, principalement du village de Tchofi, procèdent à l'automédication pour guérir de certaines maladies faute des moyens pour assurer la prise en charge efficace dans les structures médicales appropriées. Il s'agit surtout des malades souffrant de la hernie, l'appendicite et des maux d'yeux. Dans un entretien avec Radio Mendeleu, ces habitants disent procéder ainsi suite à la situation de pauvreté qu'ils traversent ces derniers temps à cause des conflits armés. À ce jour, ajoute-t-il, certains font recours à des tradis praticiens pour espérer guérir de leur maladie. Au-delà des hommes qui disent souffrir de la hernie, certaines femmes de leur côté disent manifester des signes qui s'apparentent à l'appendicite. Les concernés lancent un appel aux partenaires intervenants dans le secteur de la santé en leur demandant une aide en médicaments pour apporter un soulagement à leur souffrance. L'un d'eux, Paul Taïra, habitant du village Tchofi, en parle au micro de notre permanent à Calais, Abel Vitale.
Elina nisumbua sana, ça fait miaka mnane inapata opération. Elina sumbua kwa kunisha mishipa ndani, esomana ayo.
Je souffre de l'hernie depuis 8 ans. Les veines font mal. L'estomac qui provoque la tension, qui aussi à son tour provoque les maux d'yeux. Quand la vision se limite à 100 mètres, on aperçoit juste du flou et à ce stade, les yeux font très mal. À part nous les hommes, certaines femmes d'ici chez nous souffrent aussi de l'appendicite. La vie est trop dure pour ceux qui souffrent de ces maladies ici chez nous. Il y a même des enfants qui naissent avec des maladies. Nous souffrons, on voit difficilement. Lire, c'est devenu aussi un problème. On ne sait ni aller à l'hôpital, ni acheter des lunettes par manque de moyens. Nous sommes nombreux. Que les partenaires nous aident, même avec les médicaments et quelque chose à grignoter. L'hernie nous fait souffrir. souffrir.
Paul Ntaïra, habitant du village de Tchofi en territoire de Calais, et la population vivant dans les aires de santé de Luiro, Kaungu et Boanda Ndam, dans la zone de santé des Mitimores en territoire de Kabaré, bénéficiera de la gratuité des soins pendant une période de 2 mois. Cette révélation a été donnée par le médecin chef de zone de santé de Mitimores, le docteur Serge Mouniaou, au cours de la cérémonie de lancement officiel de ce projet, prise en charge par l'organisation Médecins du Monde. Dans son message, le médecin chef de zone des santé indique qu'il s'agit d'une réponse au plaidoyer que la zone des santé avait adressé aux partenaires médecins du monde après avoir enregistré des morts à domicile suite à l'automédication, tout en remerciant le partenaire qui est intervenu en donnant un lot important des médicaments. Le docteur Serge Mouniaou appelle la population à saisir cette opportunité pour se faire soigner. Il en parle.
La communauté est très satisfaite de cette dynamique de la prise en charge gratuite de la population pendant cette période où nous sommes en épidémie de la maladie à virus Ebola, tout en rassurant aux partenaires un accompagnement de l'équipe cadre de la zone de santé auprès de la communauté, auprès des prestataires de ces 4 aires de santé. Nous demandons à l'ITE avec son équipe d'utiliser ces médicaments pour vraiment les vrais bénéficiaires qui sont les malades qui seront reçus ici et que ces médicaments puissent être un moyen de soulagement de la population des malades qui ne vont plus rester dans les ménages, dans la communauté, mais qui vont se faire soigner au centre de santé de Wandanda et dans les 3 autres centres.
La revue de presse, Radio Mindélo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La réconciliation des membres du club des pétroliers d'Ouvira et l'alerte sur l'augmentation des cas de suicides dans la ville de Bukavu font partie des sujets traités par la presse jeudi 23 juillet 2026. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Débutons avec la première RDC qui annonce la fin des dissensions qui divisaient les membres du club des pétroliers d'Ouvira. Cette réconciliation est intervenue à l'issue d'une réunion présidée par Jean-Jacques Elakano dans le cadre des efforts visant à promouvoir la stabilité et le développement de la province. Selon ces médias, cette rencontre avait pour objectif de mettre un terme aux querelles internes au sein de cette corporation et de faire le point sur le recouvrement de la taxe conventionnelle destinée au financement des projets de développement provincial. Au terme de l'Assemblée générale, les membres du club des pétroliers ont adopté à l'unanimité les rapports financiers couvrant la période 2024-2026 portant sur l'état du recouvrement de la taxe conventionnelle. Les participants ont également rejeté à l'unanimité une pétition dirigée contre les comités de gestion et renouvelé leur confiance à son président Mana Lungwe, mettant ainsi fin à la crise qui opposait certains membres de la corporation. Face au retard constaté dans les paiements de la taxe conventionnelle par certains opérateurs, le gouvernement provincial et les membres du club des pétroliers ont arrêté de nouvelles mesures destinées à améliorer les recouvrements. Désormais, les camions citernes ne seront autorisés à quitter les installations douanières qu'après les paiements de cette taxe à la banque et la présentation du bordereau y afférent. Les ressources issues de la taxe conventionnelle serviront notamment à la réhabilitation des 7 km de route en pavé dans la ville d'Ouvira, en commençant par la route Espoir, ainsi que des 100 km de voirie en pavé dans la ville de Baraka. Dans un autre registre, l'Observateur aborde la question du menu probable à la table du dialogue national et inclusif annoncé par les chefs de l'État. Dialogue national inclusif de tous les enjeux au menu, changement ou révision de la Constitution, élection en 2028, retour de la paix. Les bi-hebdomadaires indiquent que la décision de confier la facilitation aux confessions religieuses, CENCO et SCC, a fait baisser la tension politique. Ils rapportent que la coalition 64 a suspendu sa marche pour donner une chance aux négociations tout en fixant au 15 août la date limite pour la convocation des assises. Info 27 annonce que la Belgique soutient les dialogues inclusifs. Les quotidiens rapportent les propos de l'ambassadeur de Belgique tenu lors de la fête nationale belge, saluant cette initiative en vue de dégager un consensus national. Actualité.cd relaie les conditions posées par l'opposant d'Eli Sessanga sous le titre RDC, la constitution constitue la ligne rouge. D'Eli Sessanga détaille les conditions. Les médias en ligne souligne son refus de toute révision de la loi fondamentale tout en actant les reports des actions des rues. Bouclons avec les souverains libres qui écrit sur la société civile sous noyau d'Enkafu dans la commune de Kadutu qui tire la sonnette d'alarme après l'enregistrement de plusieurs cas de suicide ces derniers mois. Lors d'une descente effectuée le mardi 21 juillet, ses responsables ont dressé un état des lieux de la situation. Parmi les cas les plus récents figure celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, père de 4 enfants, retrouvé pendu sur l'avenue Georges Desfours le 13 mai dernier. Quelques semaines plus tard, le 11 juillet, un adolescent de 13 ans s'est également donné la mort sur avenue Majengo. Face à cette recrudescence des cas, la société civile d'Enkafu exprime sa vive préoccupation et condamne ces actes qu'elle juge de plus en plus fréquents dans les quartiers et ses environs, conclut les souverains.
Par ici prend fin ce radio-journal. Alain Zara a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Madeleine. Au revoir.